culture.
Radio de la paix.
Eba, Gosso Alphonse.
Bonjour à tous et bienvenue à Culture. Alou Kwame René, que dis-je, le professeur Alou Kwame René, professeur émérite d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, est notre invité. Il a été récemment honoré par ses pairs à travers un colloque organisé à l'université Félix Houphouët-Boigny. Alou Kwame René, dans cet entretien, revient sur sa passion, revient sur ses travaux, ses ouvrages, mais aussi tout ce que la nature a pu lui conférer, un tapis rouge pour une rockstar du pays à Caen.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été célébré comme il se doit par vos pairs, par vos étudiants, la communauté scientifique, et les autorités, la famille, la fanfare. Quel sentiment?
Je suis heureux de se voir célébré par l'intermédiaire d'un colloque. C'est un honneur, c'est un couronnement, je peux dire, scientifique. Parce que le colloque, ça regroupe des scientifiques qui viennent de différents horizons. Vous avez vu que ceux qui sont venus et qui ont produit donc des articles scientifiques. Il y avait parmi eux des Burkinabés, des Sénégalais, une Gabonaise, quelqu'un aussi qui est venu du Congo-Brazzaville, etc., du Mali, etc. Sans compter maintenant ceux qui sont venus de nos universités, c'est-à-dire Félix Houphouët-Boigny, l'université Alassane Ouattara de Boaké, l'université Lorient Guédé de Daloa. Ce sont les docteurs que j'ai formés, c'est eux qui ont eu l'initiative. Parce que quand on rend hommage à un maître, souvent ils appellent cela maître, c'est de deux manières. Quand c'est beaucoup plus solennel, c'est par un colloque. Mais aussi, c'est à travers aussi des mélanges. On fait un ouvrage en son honneur, on appelle cela un mélange.
Vous n'êtes pas une rockstar, mais vous avez été accueilli comme une rockstar, alors que c'est par la science et tranquillement par l'histoire que vous êtes révélé.
Pour faire ma thèse de troisième cycle sur l'enzyme, ça m'a pris 3 ans. Et ma thèse d'état sur tous les peuples à Caen, ça m'a pris 7 ans. Donc, j'ai eu le temps d'étudier ces peuples-là. Bon, moi, je crois en Dieu. Je peux dire que grâce à Dieu, j'ai une bonne mémoire. Quand je fais un coup, moi, je n'ai pas besoin de mettre un papier devant moi. Voilà, tout ça est à l'intérieur de mon cerveau. Quand on s'élève quelqu'un, on lui rend honneur. Vous avez parlé de comme une star, mais non, c'est une star d'un autre genre, en fait. Quand on consacre sa vie à former des gens et que ces gens-là sont reconnaissants, bon, c'est ça la célébration.
Alors, est-ce que vous êtes ou vous étiez prédestiné à être historien? Ça a été un choix qui est venu comment, professeur?
J'ai toujours aimé l'histoire. Et quand j'étais au collège, déjà, je peux dire que j'excellais en histoire. Je ne veux pas me lancer des fleurs, mais c'était comme ça. J'étais très bon en histoire parce que j'aime l'histoire et la géographie, mais j'ai beaucoup plus aimé l'histoire. Et je me souviens quand j'étais au CG d'Aboisseau, une fois il a été dit que c'était mademoiselle Irie qui a payé la visite qu'on devait faire à l'époque à l'usine Bracodi. Les autres élèves, ils ont payé par leurs moyens pour aller faire cette visite à l'usine Bracodi. Mais mademoiselle Irie, satisfaite de mon travail d'élève en histoire, elle a payé pour moi. Elle a payé pour moi parce qu'elle a trouvé que je suis un très bon élève en histoire et géographie. Et donc, quand j'ai eu mon baccalauréat en 1980, bon, on m'a orienté en histoire. Bon, avant, il y avait un tronc commun, il y avait histoire et géographie, on m'a orienté à ce tronc commun. Puis la deuxième année, bon, comme j'aime plus l'histoire, j'ai décidé de faire l'histoire. Donc, en fait, j'ai fait les études que j'aime. Moi, souvent, je le dis, même à mes fils, je leur ai dit, faites l'étude qui vous plaît. Voilà, la discipline qui vous plaît là, c'est ça qu'il faut faire. Si vous faites la discipline qui vous plaît, c'est comme une demoiselle dont vous êtes amoureux. Même quand vous avez passé 15 heures de temps avec elle, si on vient vous dire que monsieur, ça fait 15 heures de temps que vous êtes là avec elle, vous allez dire non, mais ça fait à peine 15 minutes que je suis avec elle.
Vous ne vous ennuyez pas finalement.
Ouais, comme ça vous ne vous ennuyez pas parce que vous êtes heureux.
Vous avez eu le temps de faire des voyages, le monde entier vous reconnaît comme un spécialiste du peuple et des migrations à Caen. Vous êtes à Caen, mais comment est-ce que cela est venu?
Moi, personnellement, je voulais faire l'histoire de l'Égypte antique. Voilà, l'histoire de nos ancêtres kamites de l'Égypte antique. Je remplissais les critères non seulement d'âge, mais aussi de travail pour recevoir une bourse pour aller en France pour faire l'égyptologie. Et malheureusement, cette année-là, quand je suis allé voir le directeur de l'IAH, c'était le docteur Diabaté Victor. Il a fait une thèse d'état, une thèse d'archéologie sur Caen. Il m'a dit, jeune homme, je suis désolé, cette année, il n'y a pas de bourse pour l'étranger en histoire. Mais il y a une bourse locale pour faire une thèse sur place. J'ai dit, mais est-ce qu'on fait une thèse sur place? Il m'a dit, oui, on vient d'inaugurer cette année même une thèse sur place, faire une thèse de troisième cycle sur place. Donc vous aurez une bourse locale pour faire une thèse de troisième cycle sur place. J'ai dit bon, ok, j'ai compris. Et c'est ainsi que je suis allé voir le professeur Ekanza pour dire, ah, professeur, on m'a dit qu'on a inauguré une thèse de troisième cycle en histoire ici au département. Est-ce que vous voudrez bien m'encadrer? Il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, vous voulez travailler sur quel sujet? J'ai dit, je vais faire l'histoire d'Enzema. Parce que je me suis souvenu que mon grand-père, le père de ma maman, hein, le vieux Nyamka Alima, qui venait de décéder, ça faisait quelques mois. Je me souviens, quand les gens ouvraient sa malle, ses affaires, tout ça, et puis il y avait des livres écrits en langue Nzema. Ils m'ont dit, Kwame. Bon, tu vois, dans ma famille maternelle, on m'appelle Kwame. Ils m'ont dit, bon, Kwame, voilà les livres que ton grand-père a laissés. Voilà, les livres qu'il a laissés, donc on te les donne. Donc je me suis retrouvé à avoir des ouvrages en langue Nzema sous les bras. Et à l'intérieur, il y avait trois tomes, hein, on appelle ça Mekachibi. Ça a été écrit par un évêque qu'on appelle Amiché Aïsouan. Et donc j'ai dit au procès, quand ah, je vais faire une thèse sur l'Nzema. Il dit, ah bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur l'Nzema. Et que j'ai fait ma thèse de troisième cycle sur l'Nzema, que j'ai soutenue en juillet 1988.
Oye mi yone ke mi koso ya Mi koso ya na wa Oye mi yone ke mi koso ya Mi koso ya na wa O mi dio le mie wo
Avec vous, quand on écoute justement vos interventions d'Inkira, on parle également de la santé, de toutes ces migrations, ça va au-delà d'Nzema, donc le travail a été poursuivi.
Oui, mais absolument, comme je vous l'ai dit, quand j'ai fait cette thèse sur le troisième cycle sur les Nzema, je me suis rendu compte qu'en réalité, le peuple Nzema, c'est un brassage de familles qui sont venues de différents horizons. Regardez par exemple, le village de Sanzoulé a été créé par la famille Adarouni. La famille Adarouni, ils sont venus d'où? Ils sont venus de Koumassi à Safo. Donc ce sont des Ashanti, vous voyez. Par exemple, le village de Nzoulazo a été créé par des Betibé, c'est-à-dire des Zéotilés. Le village de Nouba a été créé par des Agni qui sont venus de l'Ebroussa. Par exemple, le village d'Agninassien a été créé par des ancêtres qui sont venus du pays Fanti. Voilà, donc c'est comme ça. Le village de Christan Anoti a été créé par des familles d'origine Abouri. Donc, ce qui fait que ma thèse de troisième cycle m'a amené donc à m'intéresser à tous ces peuples-là et à consulter leur histoire et à m'interroger et à interroger sur leur histoire. Donc c'est comme ça que donc j'ai commencé à avoir, je peux dire, une vue un peu globale, holistique de l'histoire des peuples akan. Par exemple, le village de Mouloflo, ça a été créé par des Akwamou. Ils sont du côté de Gadema. Il faut comprendre que le pays Nzema n'est pas loin de la Côte d'Ivoire. Le pays Nzema fait frontière avec la Côte d'Ivoire. Si quelqu'un veut aller à Korogo, toi tu quittes ici à Abidjan. Si tu veux aller à Benini, mais tu arrives à Benini, tu as pris ton déjeuner, tu te reposes et puis le bonhomme n'est pas encore arrivé à Korogo. Voilà, donc c'est un peu ça la situation. Et donc ça m'a amené à m'intéresser à tous les groupes akan. C'est ainsi que à partir de 1995, quand je suis passé maître assistant, j'ai encore vu le professeur Ekanza. Il dit ah, professeur, maître, je vais faire une thèse d'état. Il dit sur quel sujet? Je dis maintenant sur l'ensemble des akan. Comme déjà j'avais une masse de documents après avoir travaillé sur l'Enzema. Donc, pour moi, ça a été, je peux dire, ça n'était pas compliqué. Voilà, parce que c'est un terrain que je connaissais déjà. Moi, mon avantage, ça a été quoi? Comme j'avais une masse d'informations, c'était des précisions maintenant que je cherchais. C'est comme ça, c'était des précisions maintenant que je cherchais. Je n'avais pas besoin de faire tout le tour du pays Ashanti, tout le tour du pays Fanti, bien tout le tour du pays Aranta. Non, je n'avais pas besoin de ça, puisque j'avais des éléments. Et puis, il faut savoir une chose. D'ailleurs, je l'ai dit, je peux dire à celui qui est le secrétaire général de la Chambre des Rois, quand je l'ai rencontré à moi, je lui ai dit, mais vous savez, quand vous allez au Ghana pour mener des enquêtes sur une chefferie, bien sûr, une zone, ils ont déjà une documentation qu'ils vous remettent. Ils vous disent, Bon voilà, vous êtes venu enquêter par exemple sur par exemple, le village de Aoussoua, qui était la capitale des Ahanta. On vous remet le document, on dit regardez ça. Et puis maintenant, si vous avez des questions, vous venez nous voir. Donc c'est comme ça. J'ai dit à demander à nos chefs, à nos rois là, de faire la même chose. Au Ghana, ils font ça facilement. Pourquoi? Parce que quelquefois, il y a des contestations sur la chefferie. D'autres familles seraient dit non, nos ancêtres ont été les premiers ici, c'est nous qui devons diriger, etc. Ça, pour éviter ça, donc, ils font toujours, je peux dire, une sorte de mémorandum sur l'histoire de leur chefferie.
Aujourd'hui, on se rend compte que vous avez formé un peu plus de 35 docteurs. Les étudiants qui vous connaissent et dont on a le retour sont des milliers. Le sentiment du devoir accompli, professeur?
Non, vous savez, quand on est professeur, on ne finit jamais de travailler. Si mes forces physiques m'abandonnent, là, je peux dire que j'ai fini. Voilà, il est temps d'aller me coucher auprès de mes ancêtres. Mais tant que j'ai la force, je vais toujours travailler. C'est un devoir continu. Regardez par exemple, quand je compulsais les traditions de Ounoflo. D'ailleurs, Ounoflo, c'est le village où a grandi le président Kwame Nkrumah. C'est là qu'était son père. Quand on entend Ounoflo en langue Zema, on ne sait pas à quoi ça renvoie. Il fallait comprendre que c'est Kromofofro. Donc ceux-là, ils parlaient puis ces Akwamou qui sont venus. Ils sont venus à un ancêtre qui s'appelle Nana Broum Yachoum. Il parlait tui. Et là encore, je me suis dit non, il faut que vraiment j'ai quelques rudiments dans cette langue-là. Parce que beaucoup des ancêtres d'Enzema parlaient la langue tui. Beaucoup, d'ailleurs, les textes tambournés que vous voyez là, c'était d'abord en langue tui. C'est après que ça a été traduit en tchamanchan, comme le cas des Hébriers, traduit en Aché, traduit en Agni, traduit en Zema. Sinon, d'abord, c'était en langue tui. Je peux dire qu'il y a un peu la langue universelle des Akans. Et le fait que j'ai fait l'effort de comprendre la langue tui, ça m'a beaucoup aidé.
On a des noms comme Simon Perekanza, Sémi Bizan, Jean-Noël Loukou, des ethnosociologues, naturellement le professeur Nyango Rambois, on a Mehmet Fauté Harris. De façon générale, quel regard vous jetez sur toutes ces icônes?
Mais ce sont mes maîtres. Toutes les personnes que vous citez, j'ai lu leurs travaux. Il y a encore le travail du professeur Jean-Noël Loukou sur la tradition orale. Comment mener l'enquête, etc. Comment exploiter la tradition orale. Ça m'a beaucoup aidé. Et maintenant, sans compter la thèse monumentale de mon maître, le professeur Ekanza, sur le Moronou. Et puis maintenant, le travail alors vraiment monumental aussi de feu le professeur Georges Nyangourambois sur ce qu'on a appelé les poids à camp apaiser l'homme. Mais quand je l'ai lu, j'ai compris que ce ne sont pas des poids apaisés, non. Ce sont des poids monnaie. Donc moi, j'ai dit non. Il ne faut pas que les gens... C'est parce que les gens croyaient que c'était ainsi qu'il a utilisé cette terminologie pour donner ce titre. Bon, je ne sais pas pourquoi il l'a fait, mais quand on lit son travail, on comprend bien que ce sont des poids monnaie. C'est-à-dire que ce sont des figurines. Quand on sort une figurine, ça correspond à une quantité précise de poudre d'or. Donc, ce sont des poids monnaie. Ce n'est pas des poids apaisés. On ne pèse pas. Non. Quand on sort la figurine, on peut dire que ça fait 10 grammes de poudre d'or. Il y a les figurines masculines et puis il y a les figurines féminine. Si tu veux faire des achats, tu fais des achats avec les figurines féminines. Et quand tu revends maintenant avec les figurines masculines. Et la différence, c'est ça qui est ton bénéfice. Et ça, les Européens n'y ont jamais rien compris. Il a fallu qu'ils utilisent des courtiers africains pour pouvoir commercer sur ça. J'ai lu aussi le travail du professeur Mehmel Fauté. Donc, avec ces maîtres-là, j'ai appris beaucoup. Voilà, j'ai appris beaucoup. Donc, c'est un peu ça.
De nombreuses générations existent et se renouvellent. Vous avez fait autant d'émules. Quel message adresser à toutes ces jeunes générations?
J'espère que mon nom ne sera pas perdu. Ceux que j'ai formés, il faut qu'ils puissent, c'est vrai, eux-mêmes, assumer ce qu'ils sont en train de faire. Parce que, quelquefois, au plan scientifique, symboliquement, on tue le maître. Parce qu'on le critique. Même moi-même, je l'ai fait. Par exemple, c'est moi qui ai dit. La migration de Baoulé à Sabo, c'est-à-dire ceux qui sont venus à la reine à Blapoko. Et puis la migration à Nice, c'est la même migration. Avant moi, les gens séparaient ça. Ils disent non, c'est la même migration. Parce qu'il y a des Baoulé à Ali, il y a des Agni à Ali, hein, il y a des Baoulé Nanafoué qu'on appelait anciennement Ajua, il y a les Agni Ajua. Donc c'est la même migration. Et puis maintenant, c'est moi qui ai révélé une migration dont l'historiographie ivoirienne n'avait aucune idée. Parce que les tenants de cette migration disaient simplement nos ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne.
C'était laquelle?
Je l'ai appelé, j'ai dû donner un nom à cette migration, à ce peuplement. Je l'ai appelé la migration Akpafou, Ga, Krobou, Adélé, Avatim par rapport à ses composantes. Par exemple, si vous prenez par exemple Le Krobou d'Ores Krobou. Mais il y a des Krobou au Ghana qui sont dans les escarpements Krobou, dans la zone de Doumassé. C'est les mêmes Krobou là. Voilà. Mais la famille qui a Ores Krobou parle de cette immigration dans cette descente du ciel, c'est la famille Nzomo. Mais la famille qui, en pays Krobou du Ghana là-bas, dans les escarpements Krobou, dans la région de Doumassé, là c'est la famille Akradi. Donc vous voyez, chaque fois, je vais pouvoir l'origine. Cette migration-là, certains se sont fondus dans le peuple Baoulé. Les Bomi, les Akroufouet. D'ailleurs, vous voyez le mot Akroufouet, ça veut dire ceux qui sont Krobou. Les Akpatifouet, etc. Eux aussi disent que les ancêtres sont descendus ici à l'Enchir. Comme l'Enguin aussi. Voilà, l'Enguin, mais l'Enguin, eux, ce sont des gants. C'est là que j'ai compris, en lisant des auteurs comme Ivor Wills, etc., qu'en fait, quand le royaume Akwamou se développait, le royaume Akwamou a fait des guerres. Et donc, en faisant les guerres, ça a touché une large zone. Tous les peuples qui ont été touchés par les guerres à Kwamou ont dû fuir. Et certaines de ces populations se sont retrouvées dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Et se sont fondues à différents groupes ethniques. Les Ega, par exemple, qui sont dans la zone de Divo. Mais les Ega appartiennent pour la plupart à cette migration. Ils sont en plein milieu d'Ida, mais ils ont leur langue. Que les Ega, qui est une langue qui fait partie de la famille Kwa. Comme les autres langues qui font partie de la famille Kwa. Donc ça a été comme ça. Voilà, il y a eu les Aïtou qui, eux, sont des Bono. D'ailleurs, là encore, j'ai compulsé les traditions du Bono. Quand il y a eu la guerre contre les Ashanti en 1722, or, c'est en 1721 que la migration Baoulé, Assabou et puis Agni a lieu. Mais les Assabou qui étaient des Ashanti, ils sont d'abord en 1717 réfugiés en pays Agni. Donc 1721-1722, c'est à peu près la même période. C'est comme ça que les Aïtous sont venus en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui veulent travailler sur les Akans, il faut avoir vraiment une idée globale de l'histoire des Akans. Et puis, je le dis franchement, il faut croire en ce qu'on fait, mais il faut aussi voir que le monde qui est là, ce n'est pas un monde de hasard. Il y a une divinité quelque part, il y a Dieu, Dieu qui est là, c'est une réalité. Donc quand on fait un travail scientifique, il faut lui demander son aide. Beaucoup de découvertes là, c'est quand les gens dormaient qu'ils ont fait ces découvertes là. Hein. Ah oui, quand ils dorment là, ils sont aidés parce que tu veux réaliser quelque chose, tu es aidé. Je le dis franchement parce que, regardez par exemple, quand j'ai compulsé les traditions des Aladiens, c'est surtout l'écrit de Marc Auger que les gens regardent. Mais quand j'ai vu que, leurs voisins Aïzi les appellent Abré. Le premier village qu'ils ont créé, quand ils sont arrivés dans cette zone-là, ils l'ont appelé Abrembi. Puis maintenant, en compulsant les traditions des Fanti, j'ai vu qu'il y avait ce royaume-là qu'on appelait le royaume Abrem. J'ai compris que c'est de là que viennent les Aladiens, parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas exactement le lieu. Ils vous disent que non, on vient du pays Ashanti. Oh non, ils viennent du pays Fanti, d'un royaume qu'on appelle Abrem. Abrem, là-bas, on dit Abrem. Il y a des documents écrits où là-bas, c'est écrit Abrembo dans les documents écrits. Il faut confronter toutes ces données-là, les données écrites, etc. Et puis différentes traditions, et puis comme ça, tu peux alors faire ton analyse, parce que pour l'historien, les informations qu'il a, c'est comme une matière première. C'est à lui de raffiner ça pour en sortir un produit fini.
Ce numéro de culture avec le professeur Alou Kwame René, éminent professeur d'histoire, vous a été présenté par Didier Blé.
C'était Culture.
Radio de la Paix.